Nous sommes le jeudi 28 août. Il est 21h sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine, ou presque, vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Je connais cette musique, je l'ai entendue le week-end dernier. J'ai entendu le week-end dernier, je crois.
Oui, absolument.
J'ai entendu le week-end dernier, ça me dit quelque chose. Romain qui, quand il ne réalise pas cette émission, stream très régulièrement sur Twitch, sur sa chaîne Ruvon avec un underscore à la fin, notamment le mercredi à 13h pour dans l'émission À vos souhaits où il présente les nouveaux titres annoncés sur PC en général et sur Steam en particulier.
Oui.
Très bien. Est-ce que tu vas bien ?
Ça va et toi ?
Bah écoute,
Est-ce que tu vas finir par dire bonjour à tout le monde ?
Non, il veut faire chaque personne les unes après les autres.
Voilà, je veux faire quelque chose où quand je dis bonjour à quelqu'un, je le présente à tout le monde. Voilà.
C'est très poli de ta part.
Bonsoir Bettina.
Bonsoir.
Comment vas-tu ?
Bah ça va, mais moi j'ai pas droit à une petite présentation et tout. Oh là là.
Bettina, instigatrice de l'événement Indie Game Lyon, qui par sa seule présence rend l'émission respectable et vu le pedigree des autres intervenants, ce n'est pas un mince exploit.
Au moins quelqu'un qui sait de quoi elle parle.
Exact. Ouais, voilà. Pas toujours. Hein.
En tout cas, qui fait très bien semblant contrairement à nous.
Ça commence très très fort.
Voilà, moi c'est Xavier, sur le jeu vidéo, ben je fais rien. Par contre, la semaine dernière, j'ai enregistré une émission sur le métal, le hardcore et le catch, sur Radio Métal. Mm-hmm. Mais comme je suis quelqu'un qui est très nul en promotion, et ben bonne chance pour le trouver. Voilà.
Super.
Et je te rassure, on est très très intéressés.
C'est pour ça qu'on va dire que ce soir, on va plutôt parler de jeux vidéo et en particulier d'un événement qui s'appelle la Gamescom.
Et oui, c'était la semaine dernière.
C'est ça. Cette année, en fait, pour beaucoup, la Gamescom se résumera à un moment attendu depuis des années, l'annonce de la date de sortie de Hollow Knight Silksong, un des jeux les plus espérés par la communauté. Sauf que nous, on va parler des jeux qui nous ont titillés durant cette semaine au bord du Rhin. On reviendra un petit peu en amont sur ce qu'est la Gamescom et comment on en est arrivé à cette édition 2025 et ce qu'elle est avec... Toutes les choses qu'elle peut proposer, aussi bien le salon, le côté pro, l'open night live, etc. etc. Mais auparavant, je propose qu'on parle un peu de news de gens qui font des jeux vidéo sur le plan local, autour de Lyon. Bettina, je t'en prie.
Oui, alors justement, je réfléchissais à qui je vais bien pouvoir vous parler. Et en fait, hier, j'ai reçu un mail et un mail qui m'a fait très 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 plaisir. Donc, j'ai envie de vous partager cette petite news. Donc, c'est Léo Bernard de son pseudo Yolwookle, Yolwookle. Vous pouvez le retrouver sur itch.io par exemple, et puis voilà, enfin bref. Il a donc envoyé ce mail qui dit « J'approche maintenant bientôt de la fin du développement de mon jeu Bugscrapper et je tenais à vous remercier pour avoir organisé ces événements au fil des années. Indie Game Lyon 2024 était la première fois que je participais à un événement du genre et voir tant de personnes sincèrement s'amuser, rire, crier devant mon jeu m'avait profondément marqué et m'a motivé à continuer de poursuivre le développement du jeu. Je n'exagère pas quand je dis que le jeu n'en serait pas actuellement à quelques mois de la fin du développement sans cet événement, donc merci. Je tenais non seulement à remercier l'équipe entière d'Indie Game Lyon qui organisait cet événement, mais aussi Bettina qui en 2022 m'avait encouragé par email à participer malgré mon âge et le fait que je sois hobbyiste. Et donc voilà, ça m'a beaucoup touchée qu'il écrive ça. Et je me rappelle très bien l'échange qu'on avait eu où il se demandait en fait s'il était légitime à candidater ou non. Et effectivement, je lui avais répondu, il n'y a pas de critères d'âge ou d'expérience dans l'industrie. C'est pas
moi,
du
tu ne me parles pas d'âge.
c'est pas du tout des choses...
Ça suffit. Hein. tu vas t'en libérer du foot un jour.
C'est pas du tout des choses auxquelles on apporte de l'importance. Donc je l'avais encouragé à proposer son jeu. C'est pas parce qu'on est hobbyiste, comme il le dit, ou autodidacte, qu'on peut pas sortir un très bon jeu. Et c'est aussi ça l'ADN de l'événement. Alors du coup, je profite de cette petite news pour encore une fois faire la promo de Indie Game Lyon, comme toujours. Est-ce qu'un jour je ne parlerai pas d'Indie Game Lyon? Je ne sais pas.
Est-ce que c'est pas juste pour ça que t'es là?
Sûrement.
On va finir par te repérer.
Mais voilà, c'est aussi ça l'ADN de cet événement. L'idée, c'est de montrer tout l'éventail des jeux indie. Et évidemment, ça veut aussi dire les solo devs, les hobbyistes, pour reprendre le terme, ou tous les autodidactes qui travaillent dans leur coin en parallèle de leur travail salarié, etc. Donc voilà, félicitations à lui d'être allé jusqu'au bout de la prod. Et bonne future release. Donc le jeu va bientôt arriver sur Steam. Donc il s'appelle Bugscrapper. C'est un roguelike shooter et il y a déjà une démo gratuite sur Steam si vous voulez aller voir. Voilà, bravo à lui d'être allé jusqu'au bout et d'avoir gardé la motivation. Et je suis trop contente du coup que Indie Game Lyon ait eu cet effet sur lui et son projet.
Si j'étais jeune, je dirais GG. Je me contenterais de dire bah, c'est bien petit.
C'est cool, effectivement. Ça doit faire très plaisir en tant que personne d'avoir contribué à ça et puis ouais. Et de voir qu'il y a un projet voilà qui va au bout quoi.
C'est ça donne du baume au cœur à toutes les personnes qui développent des jeux dans leur coin et voilà il existe des endroits où on peut mettre en avant son jeu et c'est pas parce qu'on est juste un passionné autodidacte qu'on n'est pas légitime comme les autres à sortir un jeu pour de vrai sur Steam.
Tu sais que bientôt t'arriveras à l'étape où tu vas rencontrer des développeurs et qui vont dire ah ouais je vais à l'Indie Game Lyon depuis que je suis tout petit.
Oh merde.
C'est bientôt.
Ah. Ouais. J'y allais avec mes parents et c'est comme ça que j'ai eu envie de faire des jeux.
On a fait que 6 éditions pour l'instant, ça va.
Oui, mais...
oui. Merci madame.
Le temps passe.
Passons. Eh bien, merci.
Merci, oui.
Merci. Alors déjà, bravo à lui. Oui. Et merci à toi pour ces news. Et merci à toi pour justement avoir pu instiller justement cette passion aussi dans les développeurs. Parce que je pense que c'est pas le seul dans ce cas-là.
Oui.
Aussi.
Après, c'est pas moi qui instille cette passion, c'est plus les retours du public. Le public qu'on arrive à ramener sur l'événement, qui, lui, motive les développeurs directement.
Comme tu disais, qu'ils doivent se sentir un peu plus légitimes par le retour de gens qui disent « oui, c'est bien, c'est sympa, ça justifie un peu l'investissement dedans et tout. Ouais. »
Eh bien, on va partir des rives du Rhône et du Saône pour aller sur les rives du Rhin.
Je sais que t'attends ça depuis des années.
De faire cette transition-là, mais tellement.
Oui, évidemment. Mais bon, tellement. Je vous préviens, la suite sera en allemand. On a essayé de négocier, mais on n'a pas réussi.
Jeden Sommer. Hein.
Ta gueule. Ta gueule.
Moi, j'ai fait espagnol LV2.
Chaque été, Cologne devient la capitale mondiale du jeu vidéo. La Gamescom, qui est née en 2019, et aujourd'hui...
Non.
En 2009, pardon, excuse-moi.
Oui, en 2019, c'était Indie Game Lyon.
Pardon.
Ne confonds pas tout, voyons.
Mais l'Indie Game Lyon, ça...
Pas comparé.
En même temps, l'impact de l'Indie Game Lyon sur ma vie est beaucoup plus grand que celui de la Gamescom.
Et oui,
c'est ça le problème.
Donc, on t'aura appris à compter.
Hein, non. Donc, la Gamescom naît en 2009 et aujourd'hui, le plus grand salon du secteur en Europe et, comme le dirait Geoff Keighley, rivalise avec l'E3 américain, longtemps considéré comme l'événement de référence.
Feu l'E3.
Mais il n'a pas dit ça. Hein.
Il a dit que c'était le nouvel E3, pardon.
Exactement. Ce qui est beaucoup plus...
Quand on sait que l'ami Geoff en question, Geoff Keighley, a lui-même creusé la tombe de l'E3.
Il tenait les clous et le marteau sur le cercueil. Hein.
Il
a pissé autour du cadavre et voilà. en chantant. Hein.
Enfin, non, parce que des gens disent qu'il a tenu une pelle. Moi, je dis que c'était un tractopelle.
Ah oui.
Voilà.
Et il a fait la fête autour. C'est surtout ça, en fait.
Ouais. Alors, au-delà de faire la fête, il a surtout récupéré beaucoup d'argent. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Faut savoir que c'est une convention qui est héritière de la Games Convention de Leipzig. Et en fait, la Gamescom qui a trouvé sa place grâce à son format hybride, comme on en parlait déjà il y a une ou deux semaines. Un rendez-vous à la fois professionnel où éditeurs et développeurs annoncent leurs nouveautés et se rencontrent aussi pour signer des contrats, et en même temps un salon en fait grand public avec des halls entiers dédiés aux démos jouables, aux compétitions d'e-sport et aux rencontres avec des créateurs. Dès sa première édition, le salon a attiré plus de 200 000 visiteurs, chiffre qui n'a jamais cessé de croître jusqu'à la pandémie où le chiffre a atteint 370 000 visiteurs. Et il y a eu une grosse coupure après la pandémie. Mais cette année, on est quand même à 357 000 visiteurs. Donc, c'est quand même pas très loin.
On est revenu plus ou moins dans les mêmes.
Et surtout, des visiteurs, là, à l'époque, ils faisaient pas les stats. Cette année, ils font les stats, venus de 128 pays différents.
Ok.
Une progression de 6,5% par rapport à 2024 et une affluence qui témoigne de l'importance du jeu vidéo non seulement en Allemagne, mais surtout en Europe, et du rôle central que joue désormais la Gamescom dans l'industrie mondiale. Il faut savoir qu'en 2019, la Gamescom inaugure sa Opening Night Live. Donc c'est pour ça qu'on parlait de Geoff Keighley. Geoff Keighley qui est le dieu des jeux vidéo.
L'homme sandwich saltimbanque.
Le
présentateur principal, en fait, de tous les événements de jeux vidéo. Son Summer Game Fest, ses Game Awards. Et donc maintenant, ça, c'est son Opening Night Live.
Qui est le monsieur loyal du jeu vidéo. Ouais, en fait, c'est vraiment ça.
C'est le visage de ça. Avec évidemment à chaque fois son incapacité à ne pas citer ou amener avec lui Kojima. Bref, c'est.
On l'a pas vu.
Non. Et ça a surpris tout le monde.
Oui, on le cherchait.
Et pourtant, il y avait du. Et en fait, je pense.
On a vu du Death Stranding.
C'est parce qu'il y avait du. Je pense c'est parce qu'il y avait la sortie imminente de Metal Gear Solid Delta.
C'était aujourd'hui.
Voilà, qui est un remake, d'un jeu sorti il y a 10-15 ans.
En plus, c'est 2004.
Ah ouais, peut-être même plus. Le 20 ans.
Celui-là en
particulier. C'est possible, j'ai jamais joué au Metal Gear, donc je peux pas te dire. Mais néanmoins, c'est surtout que c'est un jeu qui a été fait sans Kojima.
Oui, le remake.
À l'époque, quand ça avait été annoncé. L'ami Geoff Keighley avait poussé une gueulante à base de « Mais quel scandale de pas inclure un grand créateur de jeux dans ce... » Enfin bref, bon, c'est vraiment le copain, quoi. C'est vraiment le copain. Donc ça, c'est depuis 2019. Et en gros, c'est toujours la veille de l'ouverture. Hein, voilà, c'est pas le jour de l'ouverture, c'est la veille de l'ouverture publique.
Non, justement, public, c'est le jeudi.
Ah, pardon, c'est la veille de l'ouverture aux professionnels.
Ouais.
Donc, c'est le mardi qui fait ça.
Sachant que c'est réservé aux pros. Et le reste de la semaine, c'est l'ouverture de la foire aux bestiaux. Il y a 350 000 personnes qui se pointent.
Et voilà. Et d'ailleurs, dernière chose avant de vous donner la main. Le fait que l'Opening Night Live, déjà, il a été suivi cette année par je ne sais plus combien de millions de personnes encore.
Ah, tu veux les chiffres ?
Bah, je veux bien. Je te donne la main juste après.
Ouais.
Je dis juste avant que la Gamescom, c'est Cologne, c'est l'Allemagne, mais l'édition. Mais en fait, la Gamescom a aussi voyagé. En 2017, il y a eu une édition d'abord à Dubaï. Je l'ai appris en faisant mon boulot.
En fait, ça s'est étendu.
Je pensais que c'était des Gamescom un peu partout chaque année, mais en fait, non, c'est une fois de temps en temps dans un coin.
Sauf en Amérique latine, non ? Ça a remplacé le Big.
Oui, voilà. En Amérique latine, ça a remplacé le Big, et donc c'est devenu un événement annuel. Par contre, la Gamescom à Singapour, qui a eu lieu à Singapour, elle a eu lieu à partir de 2020.
D'accord.
Et elle a eu lieu deux fois depuis 2020, mais pas toujours au même endroit et pas de façon pérenne.
D'accord.
Mais par contre, ça devient la Gamescom Southeast.
Oui, Asie, quoi.
Voilà.
Globalement.
C'est ça. Donc, en fait, c'est là où c'est juste pour dire que la Gamescom on la connaît comme événement allemand, ça devient maintenant une marque internationale, un petit peu comme a voulu un peu l'être la PAX aux États-Unis.
Bien sûr, avec la PAX Est, la PAX Ouest.
Voilà. Saucistes, etc. Voilà. Donc, c'était juste pour affirmer que la Gamescom, maintenant, c'est devenu aussi un vecteur de communication très important dans le monde du jeu vidéo et pas uniquement un événement à un moment donné.
Oui, bien sûr.
Tu voulais
les chiffres. Pour la première fois, ils ont passé les 2 millions de viewers au maximum. Le pic du nombre de viewers de l'Opening Night Live a passé les 2 millions.
Pour la première fois.
L'année dernière, ils étaient à 1,8 million. Et si tu le compares par rapport au nombre moyen... de viewers, je crois qu'on était à 1,1 million l'année dernière. Cette année, on était à 1,8 million. En nombre moyen. Donc on est quand même beaucoup plus proche du nombre maximum. Donc je pense qu'il y a eu un peu le côté beaucoup plus de rétention finalement du nombre de viewers. Et par rapport au nombre de personnes et la durée de l'événement, donc on était à 4 millions d'heures de visionnage de l'Opening Night Live.
Mais il me semble qu'on est à moins encore par rapport aux autres événements Ageoff.
Pas forcément les événements Ageoff, parce que par rapport à tout ce qui s'est passé cette année, pour 2025, il est même pas encore dans le top 5 des événements qui ont amené, donc qui étaient diffusés en ligne et qui ont amené des gens à regarder, des spectateurs à regarder l'événement.
Le Summer Game Fest est avant ou après ?
Alors c'est le Nintendo Direct qui annonçait la Switch 2,
évidemment.
Loin devant tout le monde.
C'est pas étonnant.
6,3 millions en pic de viewers. Ensuite on a effectivement le Summer Game Fest à 3 millions.
Loin derrière,
Loin derrière. Et que entre guillemets, 1 million au-dessus de la Gamescom. Ensuite il y avait le Nintendo Direct de mars. De cette année, qui était un peu un entre-deux, les gens peut-être attendaient déjà la Switch, etc. Donc il y avait déjà un petit peu
on voulait avoir des petites infos.
Ah oui, je me souviens.
Ils ont dit qu'on annonce la Switch 2 à telle date.
Je me souviens qu'il était. En plus, il était très bien celui-là parce que il y avait pas mal de choses intéressantes à mettre dedans, mais les gens étaient très déçus parce qu'il n'y avait rien sur la Switch 2, mais je trouvais qu'il y avait des super jeux.
Il n'y avait rien sur la Switch 2 et il n'y avait rien sur le Six-Song, les gens étaient déçus.
Mais par contre, il y avait des.
Mais ils étaient là.
Mais je trouve que c'était un super Nintendo Direct pour
eux. C'est ça. Le Xbox Game Showcase a également amené 2,3 millions.
Donc celui du Summer Game Fest.
Ouais. Okay. Et le State of Play de juin, du 4 juin de.
Juste avant le Summer Game Fest,
on était à 2,20 millions, enfin 2,2 millions.
Et donc ça, c'est au-dessus de l'Opening Night Live qu'on a eu.
C'est ça, sur 2025, en tout cas, c'est effectivement le classement actuel, j'ai envie de dire, du nombre de gens qui l'ont regardé en direct.
Ça reste intéressant pour placer déjà comment. Pour placer, en fait, comment se situe. Je veux dire, la marque Gamescom par rapport au reste. C'est-à-dire que par rapport à notre marque qui est Sony, notre marque qui est Xbox, notre marque qui est Nintendo et notre marque qui est Summer Game Fest. Donc, c'est pas inintéressant pour moi.
Je vois ce que tu veux dire. Et puis, ça montre un peu que ce qui pouvait être considéré un peu comme un moment creux pour les participants, entre guillemets, en termes de vue en ligne, ça se réduit. C'est quand même au milieu de l'été, c'est encore un peu les vacances pour beaucoup de gens. C'est pas forcément le moment où tu passes du temps devant ton écran pour regarder ça. Enfin, il avait un peu ce positionnement un peu particulier, malgré tout, même au niveau du calendrier.
C'est limite trop tôt en août pour la plupart des gens.
Ou même en août tout court, c'est peut-être déjà pas forcément le meilleur plan. Par contre, pour le côté physique, effectivement, comme tu le disais, ça n'a jamais été un problème. Mais on rattrape déjà un petit peu toutes ces consommations différentes de l'événement, que ce soit en physique ou que ce soit en ligne.
Bettina, toi, c'est quoi ton rapport à la Gamescom? Est-ce que déjà c'est un truc qui t'a intéressé ou c'est juste là parce que on t'a forcé à être dans cette émission, tu t'es obligé à regarder Gamescom alors que t'en as rien à foutre?
En vrai, si je faisais pas partie de l'émission, je regarde pas ce genre de conférences. En fait, j'aime pas tout ce côté on fait monter la hype avec des trailers. Ça me passe au-dessus parce que les trailers, faut savoir que moi
vas adorer début décembre.
Je viens de la com à la base, c'est ça mon métier. Je suis graphiste et je fais aussi du montage vidéo, etc. Et en fait, les trailers, c'est toujours censé vendre du rêve, en fait. Et donc, à chaque fois, ça me frustre parce que on ne sait pas vraiment comment va être le jeu, on n'a pas trop vu le gameplay, ou en tout cas, enfin, à chaque fois, c'est vraiment trop de paillettes. Et je me dis, ouais, mais en fait, ça ne m'intéresse pas, je veux savoir si le jeu, il est bien. Et évidemment que le trailer, il va te faire croire que le jeu, il est bien, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, normalement, je ne regarde pas toutes ces confs. Mais là, du coup, j'ai regardé. j'ai préparé l'émission. Mais c'est vrai que normalement, c'est pas mon truc. Enfin, sans plus, quoi.
Et d'un point de vue plus, vu tes rapports notamment avec les développeurs, est-ce que quand tu parles des développeurs, eux, ils te parlent de la Gamescom comme d'un moment particulier dans l'année?
Oui, bah là cette année en plus, ouais, j'ai échangé avec pas mal de développeurs et développeuses du coin, de la région de Lyon et de ses alentours qui y sont allés. J'ai plusieurs noms en tête. Je sais que voilà, ils y sont allés. J'attends de les voir. Je vais les voir la semaine prochaine, du coup.
On veut des noms, on veut du thé.
J'attends de savoir comment ça s'est passé pour eux. Après, j'ai déjà vu passer des posts sur les réseaux sociaux comme quoi ils avaient l'air contents, etc. Mais moi, je veux avoir des vraies news. Est-ce qu'ils ont parlé avec des éditeurs? Et est-ce qu'il y a des choses qui avancent ou pas? Je ne lâcherai rien tant que rien n'est signé. Évidemment que je ne parlerai pas. Mais j'ai hâte de savoir, ouais.
Alors, je te rappelle qu'on t'a pris pour le buzz, hein, uniquement pour ça. Le reste ne nous intéresse pas.
Donc,
alors,
tu laisses des allusions, tu nous laisses comprendre que...
Non, mais voilà.
Ça nous ira.
Donc, j'étais à 6. Et...
Le petit jeu indé, tu sais.
Le petit jeu lyonnais, comme on connaît ça. Tous.
Lyonnais d'Écosse, c'est ça.
Ok, ça marche. Je vous propose qu'on parle de jeu. À moins que tu aies envie de...
Bah, écoute, moi j'avais vite fait, pour revenir un petit peu sur l'Opening Night Live, il y avait effectivement ce que tu disais sur le côté, c'est de la com, les trailers en tant que tels.
C'est du pur marketing.
C'est du pur marketing, au point qu'effectivement, c'est considéré comme de la publicité, dans le sens où c'est un créneau, c'est un moment où il va y avoir énormément de visibilité, on l'a dit, sur le nombre de viewers. Et du coup, c'est comme de la publicité à la télé ou dans n'importe quel contexte.
Tu payes d'argent, toi.
Tu payes pour être présent, en fait. Et tu payes en fonction de la durée de ton... Alors, il y avait un pré-show d'une petite demi-heure.
Il était top.
Il était pas mal.
Super.
Il fallait juste pas écouter le présentateur. Oui. Mais le reste était
top. Parce qu'il a essayé d'être drôle.
Oh, horrible. Mais le reste était top. Les jeux étaient trop bien.
Et ensuite, il y avait la grande soirée.
Qui était nulle.
Pour donner une idée... Pour donner une idée...
Merci pour cette analyse pointue.
Ouais, merci.
Merci, de rien.
À la semaine prochaine.
C'est vous les journalistes. Moi, je suis saltimbanque.
Pour compter
une minute de trailer, au pré-show, c'était 100 000 $. 100 000 €, pardon, parce qu'on est quand même en parlant d'euros, quasiment même chose en dollars. Et pour à l'Opening Night Live, c'était donc le gros show, c'était le double, 200 000.
Okay.
Même si, c'est l'information qui avait circulé relativement tôt, finalement, même avant le show. Il y a eu une réponse à ça, de la part des organisateurs, un petit peu, qui ont dit exactement, Félix Folk, donc un des membres de l'organisation, globalement, qui disait que, bien sûr, tu peux payer pour avoir de la publicité pendant le show, mais... La vaste majorité, c'est ces mots, hein, la vaste majorité du contenu est gratuit. Pas d'importance que tu sois un triple A ou un jeu indé, du moment que Geoff considère que ton jeu vaut le coup, il peut l'inclure dans la soirée et ça ne te coûtera rien.
C'est une
information qui a été donc donnée à Aftermath, le site, qui a conclu et qui a commenté. Vaste majorité ne correspond pas avec les informations qu'on nous a données.
Ouais.
Mais au moins, ça rouvre un petit peu la discussion sur qui, comment, qui choisit ce qu'il y a dedans, etc. Ouais. Et qu'il pourrait effectivement y avoir une partie des trailers qui auraient été inclus par choix, sans demander d'argent en échange. Ah. C'est en tout cas le message que veut faire passer l'organisation de la Gamescom. Oui.
Je pense que ce qui est possible, c'est que le fameux encart les jeux pour la démocratie, il est possible, je serais pas étonné que les gens aient pas eu les moyens, notamment quand je vois les jeux qui sont passés, parce que les jeux en question, c'était Darkest File, dont on avait déjà parlé, notamment sur ton stream et sur le stream d'un autre ami qui s'appelle H-Crew. Globalement, on sent qu'ils sont fauchés, et c'est bien, le jeu est bien ficelé, mais on sent qu'ils sont fauchés d'un point de vue moyen de production.
Et même communication.
Et communication.
Énormément de marché.
Communication globale. Le jeu de Togé Production qui s'appelle Compensation Not Guaranteed. Mm-hmm. Aussi, pareil, ça sent. Enfin, c'est des jeux qui n'ont pas les moyens d'être là. qui n'ont pas les moyens d'être là, clairement. Donc, je veux bien que pour ce type de jeu, pour cet encart-là, un peu comme ils avaient fait l'encart greenwashing l'année dernière, qui est côté, un côté où il y a...
Pour la planète, mais en
pour
fait...
Pour vous, on ne vous demande pas d'argent. Call of Duty a payé ses millions.
Ils étaient là 8 minutes. Qu'est-ce que tu veux?
Ils ont sorti deux trailers et une interview. Attends. Eux, ils ont raqué. Ah,
quand même, un minimum. Même le mec de Lego Batman qui s'est pointé.
Oh là là.
Il y a eu des trucs. Il y a eu de la présence très marquée sur certains trucs. Mais ça valait le coup, je pense, d'être précisé que, en tout cas, la Gamescom veut passer ce message-là aussi.
Je comprends.
À quel point est-ce qu'il est... en accord avec la réalité, quand il parle d'une vaste majorité, ça c'est une très très bonne question.
Oui, il y a 4 jeux,
Et à quel point, qu'est-ce que ça concernait, etc. Bon, peut-être qu'on en saura plus dans les semaines, mois à venir, peut-être que les gens parleront un peu plus.
Comme, je sais plus, c'était à Summer Game Fest ou Game Award l'année dernière, qui avait Outer Slot.
Oui. Qui avait qui s'était pointé
sans présenter un jeu, juste pour donner leur initiative et tout. Ça pourrait faire partie de ça,
oui, parce que potentiellement ils n'avaient pas grand chose à vendre, ils avaient juste de l'argent à distribuer, donc,
c'est ça, donc pourquoi pas, c'est de la pub, quoi, et entre guillemets, je veux pas dire c'est une honte ou c'est machin, on sait, c'est le système. T'as fait un super grand événement pour que les gens puissent le voir, donc tu fais payer payer des annonceurs pour qu'ils puissent vendre du temps de cerveau disponible. Merci, monsieur Le Lait.
Exactement.
Pour l'expression.
Exactement. Je finirai juste avec un petit peu une interview, enfin plusieurs interviews finalement, des gens de l'organisation de la Gamescom qui parlaient de leurs ambitions, de qu'est-ce qu'ils voulaient faire, de comment est-ce qu'ils voulaient faire évoluer le truc, comment ils ont récupéré finalement le rôle de nouvel E3 dans les faits. Un peu aussi, par rapport à ça. Le côté, on rassemble les gens physiquement, que les gens rencontrent directement les développeurs en face, physiquement, quoi, dans un ensemble comme on peut le faire à l'Indie Game Lyon, mais sur une autre échelle et d'autres ambitions et d'autres moyens, en termes de d'ambition des studios.
Alors, je sens tes efforts pour rapprocher les deux.
Eh oui, mais je fais des...
je le sens, et j'ai envie de me dire combien Bettina t'a payé. Parce que...
Alors, c'était combien les minutes
de... J'aime beaucoup cet argent.
Mais voilà, en tout cas, c'était intéressant. Ils ont fait plusieurs interviews pour parler un peu de ça, et c'est également dire un petit truc intéressant malgré tout, c'est qu'ils veulent garder ça à taille vivable. C'est-à-dire qu'ils veulent grandir, mais dans une certaine limite.
Et pourtant.
En fait, ils ont ouvert des zones en plus. Ils ont aménagé autrement les espaces. Ils ont mis par exemple l'Opening Night Live dans une plus grande salle par rapport à avant.
Oui, oui, elle est immense, la salle de.
Je crois que c'est 5000 personnes.
Ah ouais, elle est immense. Enfin,
avant, c'était plus petit.
Super.
Mais en tout cas, ils aménagent et ils font grandir le truc. Alors, en ayant la volonté de le rendre toujours praticable par les gens quand ils y vont. Bon, effectivement, il y a de plus en plus de monde malgré tout. Donc, bon, on l'a vu surtout avec par exemple, le temps qu'il fallait pour jouer à la démo de Silksong, par exemple. C'était plus de 2 heures.
Oui, mais bon, après, je trouve que c'est un cas particulier.
Et c'est ça qui était intéressant quand on avait revu un petit peu ce qui s'était passé l'année dernière à la Gamescom de 2024. C'était la même chose pour Black Myth Wukong. Ils avaient un stand avec 2 heures ou 3 heures d'attente, même principe. Malgré tout, voilà, c'est un petit peu la discussion, en tout cas le discours, mais qu'on peut évidemment remettre en corrélation avec ce que tu disais, le nombre de personnes qui n'arrêtent pas d'augmenter, qu'en tout cas qui commencent doucement à rattraper les visiteurs d'avant Covid. Donc voilà, mais en tout cas ils n'ont pas non plus l'intention d'ouvrir en grand les vannes et de rester cet événement où on peut communiquer les uns avec les autres, que ce soit les pros, parce qu'il y avait quand même 34 000 pros sur les 350 000 visiteurs, et de plein de pays différents comme tu l'as dit. Et puis aussi que les visiteurs puissent avoir une vraie relation directe avec les créateurs, dans la mesure du possible, dans la mesure où 350 000 personnes peuvent communiquer sur un moment assez court, parce que finalement, on le disait, ça commence l'Opening Night Live le mardi,
4 jours.
Le mercredi c'est réservé aux pros, et à partir du jeudi jusqu'au dimanche, c'est ouvert.
C'est
4
jours en tout, c'est pas énorme.
Donc c'est très court.
C'est pas énorme.
350 000 personnes, c'est très court.
En tout cas, en termes de communication, ça me rappelle, pour rester dans l'événementiel, la communication qu'a pu avoir le Hellfest il y a quelques temps encore, qui est de base. C'est... Quand tu vois le truc de loin, tu dis, mais il y a énormément de monde, c'est horrible et tout ça. Et à chaque fois, ils disent, oui, mais on veut pas tant plus que ça et tout ça.
On essaye de limiter, on essaie de garder ça.
Et pourtant, ça fait bizarre par rapport au truc qui est gigantesque. Voilà. Je pense que c'est un peu la même pour la Gamescom en termes de communication.
Est-ce que la Gamescom invite autant de criminels sexuels que le Hellfest? Je ne sais pas.
Ça reste le jeu vidéo. Donc, ça reste le jeu vidéo.
C'est une bonne question.
Ça reste le jeu vidéo, c'est juste que Mediapart y intéresse moins.
Pour l'instant.
Ouais, pour l'instant. Ça va venir.
Ça va venir.
Je ne sais plus quel était l'événement. Peut-être la Game Dev. La GDC.
Ouais.
La Game Dev Conférence, où il y avait eu plusieurs histoires de. Un petit peu compliqué, avec des boissons avec de la drogue dedans. Des trucs comme ça, quoi, qui s'étaient ressortis à ce moment-là. Des trucs qu'on n'a pas entendu pour la Gamescom, par exemple. Ouais. Alors que c'était très très présent pendant un temps. Ces discours-là au sein des, au sein des groupes qui parlaient un petit peu entre eux de comment ça se passe, les conférences où on reçoit les devs et ils viennent parler de leurs trucs.
Écoute, le chèque que m'a donné Geoff m'a interdit de parler de ça.
Bien évidemment.
Donc je préfère qu'on parle de jeux vidéo.
Bien évidemment.
Évidemment, parce que c'est pour là qu'on est tous là, pour la joie.
Oui, et... pour s'amuser.
Oui, exactement. Bettina, je m'en voudrais de t'avoir obligé à assister à la Gamescom et à l'Open Night Live sans que tu puisses parler de jeux vidéo quand même et de ce qui t'y a plu, donc je te laisse commencer.
Alors du coup, j'ai quand même profité, enfin je me suis épargné le visionnage en live et j'ai regardé un react de Mister MV en l'occurrence pour le citer, et je me suis permis de pouvoir sauter tous les passages qui m'intéressaient pas, les trucs chiants, toutes les interventions de Geoff dont j'avais rien à péter, toutes les interviews pareil, voilà. Donc mon petit conseil, c'est de le regarder en replay après, c'est quand même assez cool, hein.
Bon, moi honnêtement, vu ce qu'il y a hors trailer, regardez les trailers.
Franchement,
on est d'accord que inviter des gens qui parlent pas la langue pour te parler d'un jeu traduit par quelqu'un, c'est la pire idée, c'est la pire façon de te présenter un jeu. Déjà, des gens qui parlent d'un truc, du jeu, sans te montrer quoi que ce soit, mais juste en te disant on est super content, on a fait des trucs. Enfin, déjà, c'est ça n'intéresse pas.
Le partenariat Final Fantasy Monster Hunter.
Oh là là.
Cette interview de la mort.
Je l'ai sauté, j'ai tout sauté. J'ai rien vu. Voilà.
Même les fans, hein.
Oui, mais ça n'intéressait personne. Enfin, au bout d'un moment. Mais il y avait d'autres choses quand même.
Oui. Oui, du coup, moi j'ai retenu, alors bon, on en avait déjà entendu parler avant, hein, évidemment, avant la Gamescom, mais j'ai retenu Keeper, qui est le nouveau jeu du studio Double Fine, qui ont fait des jeux auxquels je n'ai pas joué, tels que Psychonauts, Day of the Tentacle, etc. Donc des jeux plutôt bavards, tandis que là, c'est un jeu qui va être dénué de toute forme de dialogue et de narration textuelle.
C'est vrai que c'est pas courant chez eux, ça.
Ouais,
donc, ça aime bien le blabla.
C'est assez intriguant, du coup, de voir ce qu'ils vont faire. Donc c'est un jeu où on incarne un phare, littéralement un phare, accompagné d'un oiseau dans un univers onirique. De ce qu'on a vu des images, ça a l'air très très beau. Il y a des gens qui disaient que ça faisait penser à un Pixar pour le côté interaction avec l'oiseau, machin. Enfin,
j'ai vu cette remarque également. Ouais, ouais. C'est le jeu que Pixar aurait pu faire.
Voilà, c'est ce qu'on a pu lire dans certains articles. Je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais en tout cas, ça donne une image un peu. Et donc, parce que je pense à vous, nous sommes en podcast et vous ne voyez rien. Et donc, tout l'enjeu du titre, justement, ça va être de faire passer des émotions et de faire comprendre des choses autrement qu'avec des mots. Donc, évidemment, tout va passer par les animations, les environnements, les décors, etc. Moi, ça m'intrigue énormément. C'est totalement ma came, ce genre de jeu. Les mécaniques de jeu vont reposer notamment sur la lumière qu'on va créer, vu qu'on est littéralement un phare. Éclairer des choses qui réagissent à la lumière, éblouir des animaux, etc. On a vu qu'il y aurait un peu de plateforme aussi. Et aussi, le jeu va reposer sur les interactions avec l'oiseau, donc il faut l'envoyer à des endroits clés pour déclencher des situations utiles à faire avancer la progression, ce genre de choses. Ils ont dit que ce serait un petit jeu, que ce serait une plus petite production que ce dont ils ont l'habitude de faire. Donc on imagine qu'il va être assez court, peut-être 4 heures. Je pense que ça va être quelque chose dans ces eaux-là. Je n'ai pas le prix non plus, mais on peut imaginer que c'est un peu comme un jusant. C'est-à-dire que ce sera probablement une vingtaine d'euros, je pense. Par contre, la très bonne nouvelle, c'est qu'il arrive très bientôt sur le Game Pass le 17 octobre. Et ça, je suis très contente.
Oui, parce que Double Fine est un studio désormais qui a été racheté par Microsoft.
Et si vous ne savez pas ce que c'est que le Game Pass, écoutez notre émission de la semaine dernière.
Mais écoutez toutes les semaines. Mais c'est quoi ce bordel ?
Non, mais écoutez là, au cas où, tu vois, pour être sûr.
Romain ?
Oui. Écoute, moi j'ai vu des jeux. Alors quand on en a parlé, vous m'avez dit, mais c'est quoi ces jeux ? Ils ont été présentés ? Ben oui.
Alors ce serait déjà bien de ne pas exposer
les coulisses de
l'envers du décor.
L'envers du décor et les propos malheureux de Bettina.
Mais quel escroc. J'ai envie de vous parler en premier de Death by Scrolling.
Oui, je l'ai vu.
Tim Schafer.
Non.
Non ?
Bah non. Ron Gilbert.
Ron Gilbert, bah,
rien à voir. Tim Schafer, c'était Double Fine.
C'est, oui, pardon, c'est l'autre. C'est celui d'après.
Ron Gilbert, c'est quelqu'un qu'on connaît un petit peu parce qu'il, par exemple, il a fait les Monkey Island. Et le plus récemment, entre guillemets, il a fait également le Thimbleweed Park. Un point and click aussi, vraiment à l'ancienne, ambiance ultra Twin Peaks à fond. Vraiment pixel art très, très, très.
C'était lui aussi le dernier.
Monkey Island
oui. Celui qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'était lui qui avait repris.
Deux ans, trois ans. Ouais, c'est lui. Okay. Avec son studio Terrible Toy Box. Et là, en fait, il s'est lancé dans quelque chose de très, très, très différent de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'on connaît dans toute sa carrière, qui était donc des point and click et globalement tourné autour des Monkey Island. Ça va être un roguelike, un roguelite à défilement vertical, c'est-à-dire qu'on est au purgatoire. Et pour avoir le droit d'aller à l'au-delà, il faut gagner suffisamment d'argent pour payer le passeur. Et donc, on va dans le purgatoire, on va devoir se battre contre plein d'ennemis. Éviter la faucheuse qui essaie de nous empêcher en fait d'aller dans l'au-delà et récupérer suffisamment d'or donc pour avancer. Donc c'est un rogue, donc on va jouer, on va perdre, on va gagner, enfin on va accumuler des ressources, on va progresser, etc. On va débloquer des nouveaux personnages qui auront différents pouvoirs, etc. C'est vraiment un jeu donc là également en pixel art, comme je faisais la remarque. À l'époque où il a sorti Monkey Island, la dernière version du dernier Monkey Island, il avait eu des critiques comme quoi le jeu n'était pas en pixel art comme les jeux de l'époque, comme les premiers Monkey Island. Et les gens lui avaient fait la remarque qu'au niveau du design, au niveau de la direction artistique, on n'était pas dans ce qu'ils attendaient. Les gens étaient surpris, voire déçus pour certains.
Assez marrant parce qu'au final, maintenant, quand tu comptes les Monkey Island, même en enlevant le dernier, il y en a plus qui ont été faits sans pixel art qu'avec.
Et oui, mais certains n'ont pas été faits par lui, notamment ceux qui ont été faits par Telltale.
Oui, ou même le troisième, le Curse.
Ouais, mais qui était et en fait ce qu'il avait
qui
dit
qui n'était pas par lui non plus, non.
Non, mais juste avant, il avait fait Thimbleweed Park qui lui était à fond en pixel art rétro, vraiment il cochait toutes les cases du rétro.
Ouais, il était moche, ouais.
Je ne te laisserai pas dire ça. Tu joues à des jeux Wadgetai, d'accord. Non, et en fait ça avait surpris effectivement les gens qui de voir les graphismes, et il avait répondu à l'époque. À l'époque des premiers Monkey Island, on utilisait le pixel art parce que c'est la technologie qui existait. C'est pas forcément celle qu'on voulait, c'est celle qui était là. Donc maintenant qu'on a d'autres moyens, d'autres moyens visuels, etc., on a fait autrement. Et le voir revenir finalement au pixel art volontairement pour un nouveau projet, qui ressemble peut-être plus effectivement à des jeux en pixel art, à des rogues connus, quoi, que ce soit les Vampire Survivors, que ce soit un petit peu cette vague-là, finalement c'est pas très étonnant, parce qu'il va rentrer complètement dans cette case-là visuelle. Mais voilà, il sort complètement de sa zone de confort, en tout cas celle pour laquelle on le connaissait, avec un rogue de combat, de créatures, de monstres, on se tape, on meurt, on recommence, etc. Très très curieux de le voir se lancer là-dedans. Ça sera édité par Microprose, étonnamment aussi, donc un éditeur aussi sur le... qui a été racheté relativement récemment. L'histoire de Microprose, ça mériterait aussi une émission en entier.
Microprose, un éditeur qui date des premiers jeux de...
Oui et non, parce que ça a été créé par Sid Meier en 82, avant de vivre plusieurs vies et de mourir dans les années, fin des années 90, début 2000, et d'être racheté il y a 4-5 ans, par quelqu'un qui a repris le nom et la volonté de ressortir les jeux qu'éditait déjà Microprose à l'époque, pour te les vendre 7 euros aujourd'hui sur Steam.
Vivement Falcon 4.0 versus MiG 29.
C'est exactement ce qu'ils sont en train de sortir, mais pas que. C'était un petit peu leur défaut il n'y a pas si longtemps, effectivement, de se concentrer un peu là-dessus, sur les simulateurs de vol éculés, déjà vus, juste simplement pour aller chercher la nostalgie chez les gens. Et là, ils ont quelques projets beaucoup plus intéressants, beaucoup plus récents, et qui vont chercher des choses un peu plus originales, ou en tout cas beaucoup plus actuel, et c'est le cas de ce Death by Scrolling. Donc très intéressé par tout ça. Dernier petit détail, c'est le studio qui le fait, c'est Terrible Toy Box NZ, et pas Terrible Toy Box tout court, qui avait fait le Monkey Island, qui avait fait Thimbleweed Park, le dernier jeu de Ron Gilbert. Est-ce que ça veut dire Nouvelle-Zélande, le NZ? Est-ce que c'est un autre studio, une autre structure spécifiquement créée pour ce jeu? J'ai pas beaucoup d'infos là-dessus, mais ça m'a malgré tout tiré l'œil.
Bah très bien, et bah écoute, ça a l'air pas mal. J'avais vu effectivement aussi le trailer. Mm-hmm. Je trouvais que c'était bien, mais que ça manquait de Béboule.
Tu dis ça parce que tu attends Ball Pit.
Je vois
parce
pas
que c'est pas Ball X Pit, comme on le sait depuis le dernier trailer. Ah, ils ont dit que le X était silencieux.
Écoute,
comme Hunter Hunter, comme par hasard.
Exactement.
Comme Hunter Hunter, ouais. Et voilà.
Les gens n'aiment pas qu'on prononce les X.
C'est très.
Je comprends pas, Avier. Je comprends pas les gens qui aiment pas prononcer les X. Qu'est-ce que t'en penses?
Moi, j'en pense que la livraison de Fentanyl est prévue pour le 15 octobre.
Et toi, qu'est-ce que tu as vu?
Soldate, félicitations. Vous avez été promu en tant que Planeten Verteidigungs Kanonen Commandant ou PVKK.
Pas mal, pas mal.
Bravo.
S'il y a bien quelqu'un qui pouvait le prononcer, c'était toi.
Il est tout fier, vous voyez.
Il fait des tours du studio en courant. Là.
Voilà. Non, mais je crois que j'ai fini ma chronique. En fait, c'était quand même plus ça.
Qui est ce PVKK à part un nom rigolo?
Et en fait, vous êtes dans la peau d'un artilleur chargé de défendre la Terre depuis un bunker et confiné dans un bunker. Votre mission, c'est de presser les bons boutons, tirer sur les vaisseaux extraterrestres et tout ça avec le style très rétro-futuriste, un peu ce qu'on peut trouver.
Un peu une Union soviétique.
Oui. Ouais. Bah très, ça fait, il y a côté un peu Allemagne de l'Est justement.
Un peu brutal, très très métallique.
C'est ça. Le côté, enfin, le rétrofuturisme et pas Fallout de l'autre côté. Vraiment. Oui. Voilà. Bah, pour le coup, une esthétique qu'on trouvait un peu dans Atomic Heart, notamment en termes d'esthétique.
Dans les Atom RPG aussi.
Oui, effectivement. Mais dans Atomic Heart, on le voyait de plus près. Quoi.
Oui, et puis on le voyait de façon un peu plus détaillée.
C'est ça. C'est un jeu allemand, donc développé par un studio indépendant qui s'appelle Beepin Beats, qui est édité par Kepler Interactive, encore eux.
Et oui. Un peu les bons plans aussi.
Qui en ce moment.
Entre eux et Playstack,
c'est la mine d'or.
Faire,
quoi. Hein. Ça va bien en ce moment.
Tranquille.
Voilà. C'est vraiment un simulateur qui est hors norme, qui s'est fait remarquer depuis quelques années, mais souvent à la Gamescom, évidemment, vu que c'est un jeu allemand, et surtout grâce à une démo immersive sur la Gamescom 2025.
Mmh. Oui, j'ai vu les photos.
Et vraiment justement...
Oui, ils enfermaient les gens, non, pardon. Dans un vrai bunker. Et...
avec justement, comme le principe du jeu, c'est justement d'appuyer sur des boutons dans un jeu vidéo, etc., de regarder les écrans.
D'avoir moult tableaux de bord, levier.
Et ben là, ils étaient là tous en vrai. Et ça avait l'air ma boule et j'étais vert de jalousie. Quand j'ai vu les vidéos du truc, ça avait l'air incroyable. Ouais. Donc en fait, avec des leviers, des cadrans, des boutons, et pour tout ça pour piloter son canon et voir justement l'effet du canon qui explose un truc sur l'écran.
On tire sur quoi?
Hein, on s'en fout.
Moi, j'ai un gros canon, je tire.
Moi, je joue à Call of, je m'en fous. Ouais, okay. Je tape. Mais sur les extraterrestres, pardon.
Oui, d'accord. Oui, bah, du coup, j'allais rebondir là-dessus. Je pense que c'est justement tout le plot de l'histoire. C'est qu'on n'a aucune info, en fait. On suit des ordres. Et justement, ils sont très clairs sur la page Team, notamment, sur le fait qu'on va être amené à questionner ces ordres et à se demander est-ce qu'on veut les suivre ou pas. Et donc, a priori, c'est une histoire avec des intrigues politiques et des dilemmes moraux, etc. Et donc, ce questionnement de pourquoi on doit tirer sur cette menace qui arrive du ciel, qu'est-ce que c'est, etc. Quels sont les enjeux, tout ça, tout ça.
C'est vraiment, en fait, le style de gameplay. Alors, j'imagine que ça existe depuis des années, mais c'est un truc que j'avais découvert avec forcément Paper Please, qui sont ce que j'appelle les jeux d'interface. Ouais. C'est-à-dire, t'es censé faire un travail, mais en fait, t'as une interface devant toi. On te donne des règles et après, on te raconte une histoire avec ça. Et c'est un peu pareil avec Orwell, c'est un peu pareil avec OPC Operator. Oui. Ce sont en fait des jeux qui te racontent une histoire via en fait une interface dite fonctionnelle de travail.
L'interface fait partie de la narration en fait.
Voilà,
parce qu'on te raconte une histoire aussi, mais on passe
Hacknet
par là.
Hacknet aussi
plus,
fait pareil. Et là, justement, PVKK est dans ce... dans ce giron-là, et c'est ça qui m'avait vraiment intéressé. Ouais. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas uniquement en fait, genre du dilemme moral à base d'un moment, est-ce que tu fais, est-ce que tu ne fais pas, mais dans la manière de résoudre l'énigme. Ouais. C'est ça que j'avais trouvé ça fort, notamment dans Paper Please, oui. Où en fait, c'est via le gameplay, on te dit, tiens, je vais faire ça ou ça ou ça ou ça. À ouais. Un moment, faut spoiler, récupérer des passeports. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais pas? Bon, voilà. Quoi. Et c'est via le.
Comment il s'appelle celui que tu veux? Georgie ou?
Oui, Georgie. Ouais. Voilà.
Est-ce que tu le laisses rentrer ou pas?
Et en fait, voilà. En plus, le tout est enveloppé dans une atmosphère vraiment unique, à la fois très oppressante à cause de t'es dans un bunker, et le côté très cosy de C'est quand même bien, tu vois, bah, ça a l'air d'aller.
Tu, tu habites là, en fait, t'es tout seul à habiter là, donc il y a ton lit, il y a ta machine à café. Y a
oui, et puis tu vas débloquer des améliorations pour ton
confort,
ton confort, etc. Donc ça devient, enfin, c'est vraiment ton chez-toi et tout. Enfin, effectivement, c'est tout ce côté huis clos a l'air très intéressant.
Ouais, moi, ça, en tout cas, voilà, c'est il est annoncé depuis déjà quelques temps.
Hein. Ouais. Oh, on l'a vu depuis un an et demi, deux ans.
Un an et demi, et dès les premières images, il m'avait chauffé. Là, on va dire qu'avec l'escape room en vrai qu'il y avait littéralement à la Gamescom, plus l'annonce de la sortie qui aura lieu en été de l'année prochaine, turbo chaud. Voilà. Ouais. Enfermez-moi.
Il m'avait beaucoup tapé dans l'œil aussi, j'avais envie d'en parler, mais voilà, on s'était mis d'accord, c'est toi qui allais en parler.
Non, mais je te laisse prononcer le nom véritable. Voilà.
Voilà pourquoi tu n'as pas eu le droit d'en parler, tu ne sais pas prononcer le nom.
Mais c'est vrai que, du coup, c'est le nouveau jeu du studio qui a fait Domekeeper, et Domekeeper, je l'avais adoré, et là, ils sont vraiment partis sur un truc qui est totalement différent. Domekeeper, c'était un tower defense aux allures de roguelike en pixel art vu de côté, et là, on est vraiment sur un genre 3D réaliste de puzzle narratif. Donc vraiment rien à voir. Ça me rend curieuse de voir à quel point ils vont se débrouiller avec tout ça. Et
d'ailleurs, tu avais des images sur un écran qui faisaient penser à du Domekeeper.
Ouais.
C'était assez fun.
Ce que j'ai compris, c'est que tu pouvais jouer à Domekeeper dans le jeu.
Ah, carrément,
je crois.
J'ai l'impression que c'est ça. Ouais.
Parce que ça avait l'air d'une version beaucoup plus allégée, mais voilà.
Pour te montrer, si tu veux, que c'est ton chez toi, que tu as aussi des moments de détente, etc.
C'est le clin d'œil. Mais du coup, ce qui m'a frappé aussi, ce que j'ai constaté, c'est que bizarrement, il y a des similarités dans les pitchs des deux jeux, c'est-à-dire que dans les deux cas, on doit se défendre de vagues d'attaques.
Avec un canon,
voilà. Et du coup, dans Domekeeper, on arrive sur une planète, on a la recherche d'artefacts et on doit survivre jusqu'à ce qu'on on le trouve et qu'on parte. Donc, on se fait littéralement attaquer par des extraterrestres autochtones. Tandis que, comme je le disais tout à l'heure, dans PVKK, on ne sait pas pourquoi on se fait attaquer. Et voilà. Et j'ai très hâte de découvrir toute l'histoire et d'en savoir plus.
Écoute, dans ce genre de jeu, en général, je suis les ordres.
Petit détail aussi, ils ont visiblement le temps quand même de bosser encore un peu sur Domekeeper. Puisqu'ils viennent de mettre en une mise à jour là gratuite qui ajoute le multijoueur.
Oh,
on peut maintenant jouer à Domekeeper en multi.
Ok, voilà. Je vais pas kiffer. Moi,
voilà.
Mais très bien. Mais ok, mais en
ça vient d'arriver.
Ouais, il est excellent. J'adore.
Mais Tina, est-ce que tu as un second jeu?
Bien sûr. Quel temps il nous reste? Ok.
On est pas mal.
je reprends mes petites notes. Hop. J'ai envie de vous parler de un triple A, un quadruple A même.
Oula, un jeu Ubisoft.
Non, mais Ghost of Yotei, parce que j'ai adoré Ghost of Tsushima. Je joue à beaucoup de jeux indés, mais pas que. Il m'arrive de jouer à des super productions aussi. Donc j'ai vraiment très très hâte de voir cette suite qui n'est pas une suite en fait, puisque c'est pas les mêmes personnages, ça se passe pas au même endroit.
Ça se passe pas au même moment non plus, je crois.
C'est pas la même époque non plus.
C'est le Japon, c'est pareil.
Ça reste le Japon féodal.
Enfin.
Donc j'ai très hâte de voir comment ils vont renouveler l'expérience tout en gardant ce qui fait l'ADN de la franchise. Cette fois-ci, on incarne une mercenaire solitaire, tandis que dans Tsushima, on était un samouraï qui parfois était obligé de réaliser des actions qu'il jugeait indignes, par exemple, comme s'il veut attaquer un groupe d'ennemis, il est obligé de faire des attaques furtives, des choses comme ça. C'est totalement indigne pour un samouraï. Normalement, on affronte son adversaire en face à face, etc. Donc, il était tout le temps tiraillé par ça dans Ghost of Tsushima. Ça faisait partie de l'intrigue. Tandis que là, Atsu, elle s'en fout de son honneur, elle en a rien à péter. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est faire sa vengeance. Elle n'éprouve aucune honte à utiliser tout ce qu'elle peut pour arriver à ses fins. Qu'est-ce que j'avais noté par rapport à ça? Donc, sur les mécaniques de jeu, côté combat, il y aura donc toujours ces mécaniques d'infiltration et aussi des combats à l'aide de différentes armes. Un katana, une lance, Kusarigama, pardon, une espèce de serpe avec une chaîne au bout et un poids, je ne sais pas si vous voyez.
Et c'est moi qui parle une langue bizarre.
Il y a aussi Odachi, c'est un très long sabre, et également un duo de sabres. Et en fait, il va falloir utiliser ces différentes armes à bon bon escient en fonction de l'arme utilisée par l'ennemi en face. Donc on va devoir s'adapter à chaque fois en changeant d'arme. Il y avait un peu ce truc-là dans Tsushima, mais c'était avec des postures. Il y avait 4 postures différentes. On était un samouraï, donc on avait toujours notre sabre, évidemment. On ne se séparait jamais du katana. Là, du coup, ils gardent ce concept, mais cette fois-ci, c'est les armes qui changent. Après sur l'infiltration, ben moi j'ai toujours ce problème avec l'infiltration dans les jeux vidéo, c'est que je trouve toujours ça ridicule. Là on va se cacher dans des hautes herbes, on fait du bruit, les ennemis à côté ils entendent rien. Enfin c'est un peu, ça me sort toujours de l'immersion, mais en même temps si on faisait de l'infiltration ultra réaliste, ce serait injouable.
Ce serait chiant comme la mort, voilà. Parce qu'on se ferait taper à chaque fois.
En exactement.
Il y a un juste milieu. Ouais. Entre Indiana Jones le dernier et Hitman.
Oui, voilà.
Il y a un juste milieu. Parce que dans Indiana Jones, ils ont vraiment recruté que des sourds aveugles. Enfin, tu ne combats pas des gens qui sont normalement capables
de recruter dans l'armée. C'est juste les types qui ont survécu aux différents Assassin's Creed, en fait.
C'est possible. Voilà. C'est possible.
Qui sont sourds et aveugles.
Aussi, bien évidemment.
Par rapport au monde, alors là on a à nouveau un très grand monde ouvert. Il était déjà très grand dans Tsushima, mais là apparemment c'est encore plus un monde dans lequel on va devoir mener l'enquête, interroger des personnes ici et là pour collecter des indices pour savoir où aller, parce que oui, on est libre d'aller où on veut, et ils mettent vraiment l'emphase sur cette liberté et sur l'exploration, et ça me plaît beaucoup, ça me parle énormément.
Est-ce qu'on a une paravoile?
Non, non. Mais par contre,
ils n'ont pas joué aux jeux vidéo ces 5 dernières années, ces gens-là.
Mais par contre, ils ont ajouté la longue vue.
Ah.
Là, on aura une longue vue pour repérer des choses au loin.
Un arc et un grappin.
Non.
Bah, si, le grappin, la serpe avec un.
Ah oui.
C'est bon. C'est bon. C'est un jeu vidéo. Non, parce que jusqu'à présent, je me doutais que c'était peut-être pas un jeu vidéo. Là, c'est bon.
Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre aussi que j'avais envie de vous raconter? Ah oui, il y a une feature où apparemment on peut passer de l'époque adulte à son passé d'enfant avec juste un bouton sur la manette. Ça a l'air d'être assez cool. Ça permet comme ça de découvrir l'histoire de Hatsu, mais au lieu que ce soit des flashbacks, c'est des flashbacks jouables en fait. J'imagine par contre que ce sera pas partout dans le jeu. Je pense que ça va être que dans des zones spécifiques, mais ça peut être de chouettes mises en scène. Donc ça me rend assez curieux. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est j'ai encore plein de choses à vous raconter, mais je suis partie dans un tunnel là.
Ça sort quand?
Ça sort, ah putain, je sais pas.
Ça coûte combien?
Je sais pas non plus.
90, ça on sait.
Oui.
Ça sort sur quoi? Sur PlayStation?
Ah, par contre,
en exclu.
C'est vrai que j'ai un énorme problème, c'est que je n'ai pas de PS5 et que c'est une exclusivité PS5 et j'ai pas prévu d'acheter la console pour l'instant, donc je ne sais pas du tout quand est-ce que j'y jouerai.
Ça veut dire qu'un an après la sortie, il sera sur PC?
Environ un an, je pense, ouais. Je serais pas étonné, un an et demi.
Il a mis du temps à sortir Tsushima sur PC, hein.
Oui, mais. Mais le truc, c'est que c'était avant la politique systématique, désormais. Enfin, les first party Sony désormais quasiment
c'est beaucoup plus
automatiquement
en tout cas,
c'est un.
Bon, je pourrais vous en parler encore plus longuement, mais je vais m'arrêter là. Mais par contre, une dernière petite chose, j'ai vu qu'on se battait aux côtés d'une louve qui est magnifique. Et là, si en plus on peut faire des papouilles à la louve, mais c'est bon, c'est le gothi en fait. Voilà.
Bah, pour faire des papouilles, jouer Earthling, mais
ça marche aussi.
Mais voilà.
C'est prévu.
Romain, tu as 3 minutes.
Bien.
Parce que je veux mes 3 minutes, moi.
Alors,
aussi.
En plus, c'est pour parler d'un jeu qui se passe un petit peu. Il y a des délires de voyage dans le temps et tout. Bon. Ça s'appelle Crushed in Time. C'est développé par un studio qui s'appelle Dromi et Pixel. C'est un petit studio qu'on connaît un peu parce qu'ils avaient fait un truc vachement réussi il y a quelques années qui s'appelait There Is No Game.
Oui, oui.
Un petit studio villeurbanais.
Ouais.
Parce que oui. Quand même que quelqu'un qui parle un peu des studios du coin ici.
Et allez.
Ouais, donc effectivement, il avait sorti d'abord une première version de There Is No Game sur qui était un suite à une game jam de mémoire ou un truc dans le genre, avant de l'étendre finalement sur un jeu un peu plus complet. Mais c'était déjà un jeu très très méta avec le quatrième mur qui se fait péter la gueule dans tous les coins. Enfin, en gros, beaucoup de fausses, enfin de jeux qui ne peuvent pas se faire passer pour un jeu, de mini jeux. Qui t'explique qu'en fait, bah, y a pas de jeu, qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en. Et en fait, t'es fini par arriver sur une sorte de point and click avec, globalement, t'as Sherlock Holmes et Dr. Watson, avec qui tu vis des aventures. Sherlock Holmes et Dr. Watson, donc, ils reviennent dans ce nouveau Crushed in Time, puisqu'ils reviennent dans ce même principe de point and click complètement loufoque, élastique, ils se disent même dans la com. Je trouve ça assez rigolo.
C'est pas mal.
Comme nom.
Ouais.
Puisque effectivement, tu attrapes, tu tires et tu relâches les différents éléments. Ça va être une mécanique de jeu pour aider à résoudre une étrange enquête pleine de voyages temporels. Et donc voilà, c'est moins en pixel art, c'est un peu plus fin peut-être que les graphismes de There Is No Game, mais on retrouve beaucoup de petits jeux, de mini-jeux, de trucs un petit peu méta, un petit peu qui viennent te parler d'un petit peu au-delà du jeu, etc. Donc voilà, on est vraiment sur la continuité de ce qu'ils avaient fait à l'époque. Et c'est présenté en tout cas comme un point and click beaucoup plus marqué que le précédent, qui avait beaucoup plus de mini-jeux en tout cas.
Ouais. Oui, et puis surtout de puzzle, enfin, où la communication, c'était presque plus escape game.
Oui,
la communication sur There Is No Game. Ouais. Là où.
Un peu le
jeu piège façon Pony Island ou ce genre de truc, tu vois, où tu dis ah, on joue à ça, mais en fait non, pas du tout.
C'est ça, t'avais beaucoup d'histoires dedans, etc. Et l'occasion effectivement de dire que dans le petit studio, parce qu'ils sont quand même pas très très nombreux, a été rajouté relativement récemment. Donc quelqu'un qu'on connaît bien si on lit Canard PC depuis quelques dizaines d'années, parce que c'est l'ancien rédacteur en chef de Canard PC, anciennement Can Lust, Freddy Malavasi, qui est maintenant, je crois qu'il est content de producteur ou quelque chose comme ça dans le truc, et à la communication également du studio. Donc très 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 chaud pour ça. C'est annoncé pour 2026 si tout va bien.
Moi, je suis très curieuse aussi.
Ouais, très très envie d'en voir plus et très attendu, puisque finalement, There Is No Game, c'est 2018, 2017, dans ces eaux-là. J'ai plus la date en tête, mais c'est
un
quand
petit
même
bout de temps.
Petit peu vieux, c'était quand même pas hier.
Non.
Donc, la version de Game Jam, elle est de 2015.
Oui, mais après.
Et le jeu finalement est sorti en 2020 officiellement sur Steam. Voilà.
Très bien. Et alors déjà, bravo pour les 3 minutes.
Oui.
Incroyable.
Moi, qui savent compter.
Oui. Ben moi, évidemment, je vais tricher parce que je ne parlerai pas de Dench Attack, alors que j'en ai très très envie parce que ça a l'air d'être la drogue. Ça a l'air d'être trop drôle.
Développé sous drogue. Ça, par contre.
Ouais. Mais le jeu aussi en lui-même. Bref. J'avais beaucoup envie de parler de Replaced, mais c'est un jeu dont on a déjà parlé, dont j'imagine on reparlera aussi. Donc, on va plutôt parler de Long Gone parce que je ne connaissais pas du tout le jeu avant cette Gamescom.
Okay.
Il a l'air super.
Voilà. Bah en fait, ça a l'air d'être un voyage vraiment tout dans une atmosphère assez particulière, parce que Long Gone, on est dans un quartier de banlieue, dans un post-apo plutôt zombie, d'après ce qu'on voit. Le truc, c'est que dans ce jeu, les zombies n'ont pas l'air d'être des adversaires où il faut taper dessus, mais plutôt des énigmes à résoudre façon point and click, façon escape game, en fait.
Ouais, okay. Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un jeu qui a été développé en solo par Ilford Game, donc par Vin Ilford, en fait, qui est un solo dev depuis 2022, avec un jeu très narratif, forcément, en pixel art, dans cette technique un peu 2,5D, 3D.
Oui.
Tu as
de la perspective.
Oui, de la perspective, mais du.
En pixel.
C'est ce qu'on appelle les voxels, non, si je dis pas de conneries.
Oui, ça me fait plus penser aux voxels un peu.
Bah, en fait, j'attends en fait d'avoir un peu genre une démo ou un truc pour un peu juger le truc, parce que c'est un peu difficile de faire la différence.
Dans le trailer.
Dans le trailer, je trouve.
Le trailer va vite aussi. Ouais.
Mais oui, parce que le trailer, eux, ils n'ont pas eu la minute, je crois.
Non. Ils n'avaient pas 100 000.
Ils n'ont pas eu la minute, mais le peu qu'ils ont montré était déjà fort intéressant.
Carrément.
À savoir que déjà le projet, en fait, il a reçu l'appui de Outer Slot.
Oui, c'est vrai.
Voilà, l'initiative d'Inner Slot, Inner Slot étant les auteurs de Among Us, qui se sont dit on a reçu des valises de pognon, des camions de pognon, et que nous on sait qu'on a été dans la merde, donc on va le répartir auprès d'autres gens. Et Ilford Game a reçu un peu d'argent de ça. Rapidement, le fait que ça soit sans combat, j'aime beaucoup.
Ouais.
Le fait que j'ai l'impression que toute la narration, elle est racontée via genre t'ouvres les placards, t'ouvres les tiroirs, et puis tu sais un peu ce qui se passe. Mais en même temps, si t'as envie de te concentrer sur l'énigme de il y a un zombie et il faut pas que je me fasse buter, tu peux le faire aussi. J'aime bien quand il y a aussi cette option-là, en fait, de dire je veux l'histoire ou je la veux pas.
Cette liberté là.
Voilà, un peu comme il y avait dans Jusant, hein, typiquement, si t'as pas envie d'avancer, t'avances, mais si tu veux avoir toute l'histoire, tu peux l'avoir aussi. Quoi.
Mais là, ce qu'ils ont, enfin, de ce que j'ai lu sur la page Steam, c'est que je comprends que c'est littéralement au travers des objets qu'on apprend à découvrir l'histoire des habitants de Longon, et du coup, ça me fait un peu penser à Unpacking où l'histoire est racontée par les objets. Quoi.
Peut-être moins activement.
Oui, je pense.
Mais oui, effectivement. Ouais. Mais de manière générale, que ça soit par le côté post-apo, mais pas axé combat, visuellement, le côté visuel qui est très très intriguant, et l'option de gameplay, en fait, la démarche de gameplay qui est très intrigante, Longon, moi, je vais suivre ça de très près, et je crois que Bettina, toi aussi.
Oui, il me fait très envie. Et notamment, il y a l'air d'y avoir justement beaucoup d'humour et de légèreté dans le temps.
En peu de temps, ils ont le temps de montrer un truc assez fun.
Ok. On a pas eu le temps de tout dire, mais...
Non. Comme d'habitude.
Voilà. Non. Mais on a dit des choses.
Nous, on a le temps d'en dire plus la semaine prochaine.
Oui.
Pas Bettina, c'est pas de bol.
Non, je vais à la pêche aux infos.
Voilà.
D'accord. Voilà. Il y en a une qui travaille. Il y en a une qui bosse
et nous, bon, on va parler à Gamescom la semaine prochaine.
Oui, je pense. Oh, puis on verra. Il y aura sûrement 2-3 petites idées. On aura peut-être des infos, des nouvelles de Yves.
Oh oui, Yves. C'est vrai que oui.
Ah, il a des choses à dire à des juges.
Il y a beaucoup de news différentes, mais le plus dur, ça sera de choisir. En tout cas,
ça sera pour la semaine prochaine.
En tout cas, merci Bettina.
Merci à vous deux.
Ben merci effectivement à vous deux aussi.
Eh ben merci à moi.
Bah,
d'accord.
Super.
Donc personne me dit merci. Enfin toi tu me dis pas merci.
Merci Romain.
Toi tu me dis pas merci. Ouais, je note.
Non c'est bon. T'as fini. Voilà. Ok.
Et donc on se dit à la semaine prochaine.
Exactement. Jeudi prochain, Nerd de la Game, 21h sur Radio Canu.
Des bisous.
Ciao.
À bientôt.